Bonjour à toutes et tous, c'est Thibaut Timmermann au micro du Monde en Partage, l'émission d'actualité internationale sur Radio Centre-Ville. Vous trouvez comme moi qu'il fait chaud ? Eh bien désolé, mais nous allons maintenir la température puisque nous partons pour les deux prochaines émissions au Brésil. Car même si c'est l'hiver dans ce pays, le cinquième plus vaste du monde et le cinquième plus peuplé du reste, les températures y sont néanmoins très douces. Du Brésil, il en a beaucoup été question en raison des manifestations qui s'y déroulent depuis le mois dernier. Mais songez plutôt, Coupe des Confédérations, Journée mondiale de la jeunesse cette semaine, Coupe du monde de soccer l'année prochaine, Jeux olympiques en 2016, les occasions ne manqueront pas de parler de ce pays tellement dynamique et attachant culturellement, un pays qui connaît par ailleurs un essor économique et une mue spectaculaire. Comme je vous le disais, nous consacrerons deux émissions à ce pays. Il sera question du Brésil sur l'échiquier mondial la semaine prochaine, mais pour l'heure, nous allons parler des évolutions de la société brésilienne. Et si certains d'entre vous connaissent la chanson Aquarela do Brasil, composée par Ary Barroso, eh bien, je vous propose donc de brosser le portrait du Brésil. Et pour cela, nous avons au téléphone depuis l'Outaouais, Charmaine Lévy. Bonjour. Alors, vous êtes brésilianiste et professeur au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais, c'est cela ?
Oui, c'est bien ça.
Alors, dans l'actualité internationale, il est beaucoup, peut-être trop, question des mobilisations sociales, souvent bien différentes d'ailleurs, qui secouent plusieurs pays. Cela a concerné le Brésil également et je voudrais revenir sur ce point avant de tracer les évolutions plus longues du pays. Alors, au départ, il y avait ce Movimento Passe Livre, le mouvement du pass de transport gratuit avec des gens qui protestaient contre la hausse des tarifs des transports en commun et contre la médiocre qualité du service. Mais n'y avait-il que cela ? Quel était le profil, les revendications plus générales de ces manifestants ?
Bah, en général, il y en avait deux types. Un qui était des revendications plutôt socio-économiques, dans le sens qu'on veut encore des meilleurs services de santé, de transport, d'éducation primaire, secondaire. En général, on voulait des meilleurs biens et services publics. Il y avait aussi des manifestants contre la culture politique, corruption, du clientélisme, etc. On voyait beaucoup d'autres revendications, genre les gays, les lesbiennes, les féministes. Il y avait une multitude de revendications.
En effet, il y a eu des personnes proches du pouvoir de l'ancien président Lula qui ont été accusées de corruption.
Oui, ben, il y a des corruptions, je dirais, dans presque tous les partis. Alors en 2005, il y a eu le cas de Mensalão, le gouvernement Lula a acheté des votes de sénateurs, de députés.
Le syndicalisme également a une place très importante au Brésil. Pour quelles raisons ?
D'abord, il y en a eu une place importante dans les années 70-80. Parce que, à l'époque, c'était les syndicalistes qui avaient des revendications les plus visibles, qui étaient, on peut dire, des forces sociales les plus organisées. Puis, il y en a une tradition de syndicalisme, enfin, surtout fondée par des immigrants italiens, espagnols, portugais. Pendant la dictature militaire, les syndicalistes étaient les mieux organisés, qui étaient, à l'époque, étaient capables de paralyser la nation avec leurs protestations.
Si je vous posais cette question, c'est également parce que ces syndicats ont tenté de surfer sur la vague des protestations.
C'est-à-dire que le syndicalisme s'est affaibli au début des années 90 parce que l'économie a changé, il y a eu moins de monde syndicalisé, il n'y a plus de sous-traitance. Aujourd'hui, je pense que c'est à peu près 8% de la population qui est syndicalisée, alors c'est moins important aujourd'hui. Pendant les manifestations du mois de juin 2013, les premières deux semaines, les syndicats regardaient ça un peu de loin. Ils accompagnaient ça quand des manifestants qui ont appelé à une grève générale pour le 1er juillet, les syndicats étaient obligés à réagir. Je dirais, les syndicats sont mobilisés après le coup.
Et pour finalement, quel résultat ? Est-ce que ces manifestations se sont prolongées ?
Ils n'ont pas duré très, très longtemps. Il faut dire, ils ont duré 2-3 semaines. Il y avait vraiment des manifestations massives. Je dirais que le gouvernement ou les gouvernements ont offert des concessions. Alors, dans des villes comme São Paulo, comme Rio, on a réduit le prix de transport en commun. On a fait ça dans d'autres États aussi. Au niveau national, on a promis d'investir plus dans l'éducation, dans la santé, dans le transport, et on a promis un référendum pour faire une réforme politique. On parle d'une réforme politique depuis des années, mais c'est un processus très difficile parce qu'il faut avoir l'aval à la fois des différents partis qui composent le gouvernement.
C'est peut-être l'une des manières dont a réagi la présidente Dilma Rousseff après qu'elle ait essuyé une chute brutale dans sa popularité. Je précise également pour nos auditeurs, puisque vous parliez du gouvernement et des États, que le Brésil est un pays fédéral comme le Canada.
Les États-Unis.
Ou comme
parce
les États-Unis.
Il y a des États, ce ne sont pas des provinces, mais ce sont des États, et puis ils sont plus nombreux que nos 10 provinces.
La forte mobilisation des étudiants de la réputée université de São Paulo a pu autoriser la comparaison, toutes choses égales par ailleurs, avec mai 68 en France. Et de fait, parmi les évolutions du Brésil, il y a la forte progression de l'enseignement universitaire. Le nombre d'étudiants est passé de 900 000 en 2002 à 1,7 million en 2011. Alors, ce mouvement de protestation n'était-il que spontané ou traduisait-il des revendications plus profondes de la société brésilienne?
Je dirais il y a des parallèles avec mai 68 dans le sens que oui, c'est ça, on a investi beaucoup plus dans l'éducation supérieure. C'est un très bon moment économiquement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'emplois, mobilité sociale, beaucoup des gens qui étaient considérés comme des pauvres qui sont devenus, on dit souvent classe moyenne, mais je dirais plutôt une classe travailleur. Alors il y en a vraiment une grande mobilité sociale qui gère des attentes, un peu comme dans la société française dans les années 60. On veut des meilleurs services et au Brésil, il y a un plus grand déficit de biens et services sociaux. Alors, on peut faire des parallèles dans le sens, c'est une société, c'est un fort moment de transition et c'est sûr que pour des jeunes, c'est un moment difficile aussi parce que c'est un moment où on a accès à l'éducation supérieure. Mais ce n'est pas une garantie d'avoir un bon emploi et d'avoir accès à des bons services et biens sociaux.
On va poursuivre la description de la société brésilienne après une pause musicale. Je vous ai déjà dit à quel point la scène musicale brésilienne peut être riche ici à Montréal. C'est l'occasion de s'en rendre compte avec cet artiste d'ici qui a parfois son cœur là-bas, au Brésil. Voici Paulo Ramush avec Jeito de Ser.
Sem meu samba tem melancolia. Alegria não pode faltar. Quando canto me sinto feliz, pois o samba é meu jeito de ser. Então levo meu samba cantando meu jeito de ser. Levo meu samba cantando meu jeito de ser. Solto a voz no refrão, batuque e violão, pé no chão vai sambar. Solto a voz no refrão, batuque e violão, pé no chão vai sambar. Se a tristeza é a noite da alma, a alegria é a luz do prazer. Se a tristeza é sensibilidade, a alegria me faz renascer. Eu levo meu samba cantando meu jeito de ser. Levo meu samba cantando meu jeito de ser. Samba.
samba, sambou, samba, sambou, não descansou, samba, sambou, samba, sambou, não descansou, samba, sambou, samba, sambou, não descansou, samba, sambou, samba, sambou, não descansou.
Jeito de ser, une chanson entraînante de Paulo Ramos, un artiste de Sao Paulo qui se produit très régulièrement sur la scène montréalaise et notamment le 16 août lors d'un 4 à 8 au Jardin Botanique de Montréal. Je vous conseille vivement de vous y rendre. Vous êtes bien à l'écoute du 5FM et Le Monde en Partage. On parle du Brésil cette semaine et j'ai pour cela en ligne avec moi Charmaine Lévy, brésilianiste et professeur au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Alors nous allons, si vous voulez bien, passer au temps long. Ce qu'il faut dire, c'est que le Brésil est un pays en pleine mutation économique et sociale. Mais quels sont les facteurs qui ont permis cette mutation si rapide?
Il y en a eu un virement économique au début des années 2000. Avant ça, l'économie brésilienne était très attachée à l'économie américaine. Comme je disais, il y a un virement dans le sens que le Brésil s'est ouvert. Je pense aujourd'hui, le plus grand partenaire de commerce du Brésil, c'est la Chine, ce n'est plus les États-Unis. Et l'économie brésilienne a changé pour devenir une économie d'exportation d'aliments, surtout le soja, le café, le cacao. On peut dire aujourd'hui, le cœur de l'économie, c'est l'exportation de ces produits. On parle aussi de l'éthanol pour le marché international. Et puis comme ce sont des produits qui vaut beaucoup sur le marché international, l'économie du Brésil roule. Il y en a un autre côté, le Brésil a parié beaucoup sur un système de transfert de revenus aux plus pauvres. Quand Lula est devenu président, une de ses objectifs, c'était d'éradiquer la pauvreté. Alors, depuis en 10 ans, il a réussi à retirer 30 millions de personnes de la pauvreté, c'est-à-dire presque comme le Canada. Oui. Et ça aussi, ça fait rouler l'économie parce que quand il a fait ça, encore une fois, il a fait ça avec les transferts de revenus, mais il a aussi fait ça avec une augmentation sérieuse du salaire minimum. Et ça fait tourner l'économie domestique aussi. En plus de ça, on investit dans des projets d'infrastructure, enfin un peu comme les Jeux olympiques. Il y a eu aussi au début du mandat de Lula les Jeux panaméricains, les Jeux olympiques, la Coupe du monde, etc. Alors, c'est l'État qui investi dans des grands projets d'infrastructure.
Certes, mais on a vu dans les manifestations que les manifestants réclament peut-être moins de stades et plus d'investissements dans les hôpitaux, les écoles.
Mais c'est ça le hic. Le Brésil s'est investi dans le transfert de revenus aux plus pauvres. Il a investi moins dans des services publics comme l'éducation et la santé. Et ça, c'est en partie en raison parce qu'il y a des différents du Canada, il y a des réseaux privés de santé et aussi des réseaux d'éducation privés très importants au Brésil. L'idée, c'est que bon, on n'a pas besoin d'investir dans ça parce qu'il y a tous ces réseaux. Puis si on gagne plus, ben là, c'est ça, on est capable d'acheter une assurance maladie, on est capable d'envoyer nos enfants dans une école privée, etc. Mais ça, c'est pas tout le monde qui a l'argent pour ça. Et ça fait que les réseaux de santé et d'éducation primaire secondaire, enfin, il y en a encore des déficits très importants.
Il y a un thème que je voulais aborder également, c'est celui des Afro-Brésiliens. Malgré ses succès économiques, le Brésil demeure le 10e pays le plus inégalitaire au monde. Quelle est la place aujourd'hui des Noirs et des Métis au Brésil?
Mais on les trouve surtout au bas de l'échelle sociale, hein, c'est-à-dire que parmi les pauvres, on trouve beaucoup des gens, pas seulement les Afro-Brésiliens, mais je peux dire les gens avec la peau foncée. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas dans les plus riches, mais on trouve beaucoup, beaucoup moins. Et il y a encore une hiérarchie raciale, sociale, qui existe au Brésil. Puisqu'on est blanc, mieux c'est pour réussir, pour avoir une éducation, pour avoir un emploi, pour être bien vu par la société. Et ça se reflète beaucoup dans la culture, si on regarde les téléfeuilletons brésiliens, des acteurs sont majoritairement blancs, même on disait dans les années 90 que ça aurait pu être une téléfeuilleton suédoise, là, parce qu'il y avait tellement des gens blancs. Cette hiérarchie n'a pas disparu. Alors, si on regarde au niveau des domestiques, on trouve majoritairement des femmes afro-brésiliennes. Ça existe encore, mais c'est sûr qu'il y a eu des acquis.
Vous êtes par ailleurs spécialiste des religions. Les journées mondiales de la jeunesse se tiennent en ce moment à Rio de Janeiro. Alors qu'on évoque la popularité croissante des églises évangélistes, quel est leur poids réel au Brésil et sur les sujets de société?
Il y en a à peu près, je dirais, 15-20% des évangélistes baptistes, pentecôtistes, etc., au Brésil aujourd'hui. C'est important. Si on se promène dans n'importe quelle ville au Brésil, carrément à tous les coins de rue, il y en a une église évangélique pentecôtiste. Je n'exagère pas. Alors, dans ce sens, ça prend une place importante. Ça prend une place importante aussi par rapport aux valeurs traditionnelles, morales. Ça, c'est très fort. Et c'est pas seulement les évangéliques, mais c'est aussi les catholiques. Il y en a une certaine morale très conservatrice au Brésil. Et ça, ça en effet, sur la société, il y en a eu beaucoup de débats sur le mariage gay. Il y en a encore des débats sur l'avortement au Brésil qui est très mal perçu par la population. Il y a 2 ans, j'étais au Brésil, je suis allée dans une pharmacie et puis il y avait toutes sortes de matériel contre l'avortement. C'est le genre de choses qu'on ne trouverait pas au Canada. Mais au Brésil, c'est normal.
Pour terminer, un éditorial de Courrier International titrait récemment « Le Brésil, les États-Unis du 21e siècle ». Je vais vous poser la question du point de vue de l'attraction culturelle et sociale. Est-ce que vous partagez cette prophétie?
Oui et non. Oui, dans le sens qu'il y a des similitudes. Le Brésil a connu un passage esclavagiste comme les États-Unis. Il y a une population afro importante comme aux États-Unis. Il y a eu aussi une immigration des Européens au 19e siècle comme aux États-Unis. Il y a des similitudes, c'est certain. Il y en a aussi, ça a donné toutes sortes de manifestations culturelles. Aux États-Unis, on a le blues, on a le jazz. Au Brésil, on a toutes sortes de manifestations musicales. On a un métissage, on a une culture très forte, une identité culturelle très forte comme aux États-Unis. Ça va devenir comme les États-Unis, je ne sais pas, parce que ça dépend de la place que le Brésil va se tailler au niveau mondial. Et puis là, on sait qu'il y en a d'autres pays. À l'Inde et à la Chine, c'est très difficile de savoir au niveau de où le Brésil va se placer au niveau mondial.
Un grand merci, Charmaine Lévy, pour votre regard et surtout, je le précise, pour votre disponibilité au pied levé. C'était vraiment très apprécié. Je précise donc que vous êtes brésilianiste, professeur au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Merci encore.
C'est moi qui vous remercie.
Avant de retrouver Aline Zalé pour sa revue de presse, je vous propose une nouvelle dose de musique brésilienne et cette fois un artiste de la relève. Il s'agit de Romel Ribeiro avec Niazinho.
Esse tal de shawarma e maquidô não dá. Que essa tal de poutine e maquidô não dá. Que essa tal de coca e maquidô não dá. Não dá, não dá, sim, ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não. Uma tapioca e um tiquinho de cuscuz.
mandar também umas garrafinhas de Guaraná Jesus, que esse tal de shawarma e maquidô não dá, que essa tal de poutine e maquidô não dá, que essa tal de coca e maquidô não dá.
Originaire du nord du Brésil, mais vit depuis plusieurs années à Montréal, Romel Ribeiro, puisque c'est lui que vous écoutiez à l'instant avec Niazinha, a également reçu le Grand Prix de la diversité de Montréal 2010-2011. Et comme chaque semaine, c'est la revue de presse avec vous, Aline Zalé, bonjour.
Bonjour Thibault, cette semaine, une revue de presse consacrée aux couvertures de magazines. Parfois scandaleuses, émouvantes ou choquantes, on part faire un petit tour du monde de ces unes qui marquent l'actualité.
Et on commence par celle dont on a entendu parler toute la semaine dernière aux États-Unis.
Et oui, cette semaine, c'est la une du numéro d'août du magazine Rolling Stone, paru vendredi dernier. La couverture en question, un portrait de Joe Cartsanef, qui est accusé d'avoir planifié et perpétré les attentats du marathon de Boston, le 15 avril dernier. Le magazine a choisi de retracer la vie de ce jeune terroriste présumé et de lui consacrer un article très long pour tenter de comprendre, je cite, comment un étudiant brillant et prometteur a été rejeté par sa famille, est tombé dans l'islam radical et s'est finalement transformé en monstre. Dans cette affaire, ce n'est pas tant la démarche journalistique qui est contestée, mais plutôt la photo à l'effigie de ce jeune américain d'origine tchétchène. Il apparaît avec un regard mélancolique, des mèches brunes qui lui tombent sur les yeux, sa bouche est cernée d'un bouc. Il ressemble à s'y méprendre à une star du rock sur cette photographie. Sauf que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, les présentateurs du Today Show, la grande émission matinale de la chaîne NBC, ont comparé cette couverture à celle publiée par le magazine en 1991 pour fêter ses 20 ans, la couverture avec Jim Morrison.
De vives réactions, j'imagine, par rapport à cette couverture. Comment cela s'est-il manifesté ?
Majoritairement, les réactions ont été défavorables. La couverture dévoilée, les commentaires sur les réseaux sociaux ont été acerbes et nombreux. 100 000 tweets en 24 heures. Pour citer quelques réactions d'internautes, on a pu lire que cette une donne une touche de glamour au terrorisme, un autre regrettait quant à lui que ce ne soit pas le petit garçon de 8 ans, victime des attentats, qui soit sur cette une. Le maire de Boston, Thomas Menino, a lui déploré que cette couverture transmette le message terrible que la destruction apporte de la notoriété aux tueurs et à leur cause. On a aussi vu ce policier, Sean Murphy, montrer son opposition en décidant de faire fuiter au Boston Magazine des photos de l'arrestation du terroriste présumé, où il apparaît le visage ensanglanté. Un geste de colère qui risque de compromettre son avenir dans la police de Boston.
J'imagine que la rédaction de Rolling Stone a dû réagir à tout ce soulèvement.
Les critiques étaient tellement acerbes à leur encontre qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de réagir. Dans un communiqué, le magazine justifie son parti pris rédactionnel en expliquant avoir voulu comprendre ce qu'il se cachait derrière ce visage d'adolescent et étudier cette affaire dans sa complexité pour comprendre la manière dont cette tragédie a pu se produire. D'autant que le jeune accusé appartient à la même tranche d'âge que leur lectorat.
Quelles sont les conséquences pour le magazine ?
Probablement un impact financier. Plusieurs chaînes de magasins ont décidé de ne pas vendre le numéro d'août et une invite même une quinzaine de gros annonceurs tels qu'Apple ou McDonald's à retirer leur publicité. Quoi qu'il en soit, ce choix de couverture n'est pas anodin et n'a pas été fait pour passer inaperçu. Probablement dans l'espoir de remonter les ventes du magazine. L'objectif sera vraisemblablement atteint car il est probable que bien des gens qui ne l'achètent pas normalement soient tentés de le faire aujourd'hui. En tout cas, cette affaire restera dans les annales de Rolling Stone.
On passe maintenant à une couverture du Times américain, Aline, qui a fait scandale en Birmanie.
Une couverture qui a fait couler beaucoup d'encre au début du mois. La cause, le portrait d'un moine bouddhiste birman islamophobe, accompagné d'un titre mêlant bouddhisme et terrorisme. Le titre, le voici, le visage du terrorisme bouddhiste, comment des moines militants alimentent la violence anti-musulmane en Asie.
L'article touche en effet à un sujet sensible dans le pays qui est en proie à des violences interreligieuses depuis un an.
Effectivement, la Birmanie est secouée par le mouvement 969, une campagne nationaliste et anti-islamique menée par le moine Viratu, la figure à la une du magazine. Il prône un discours haineux à l'encontre de la minorité musulmane du pays. Pour vous donner une image du personnage, je reprends ses propos qui apparaissent dans l'article du Time. Les musulmans se reproduisent si vite, ils volent nos femmes et ils les violent. Ils aimeraient occuper le pays, mais je ne le laisserai pas faire.
Un discours virulent que le gouvernement birman s'est empressé de condamner.
Tout à fait. Le gouvernement ne voulait pas que les lecteurs du monde entier commettent d'amalgame à l'encontre de la religion majoritaire en Birmanie, le bouddhisme. L'article a donc été interdit dans le pays. Dans un communiqué officiel, il est rappelé que l'enseignement de Bouddha est une religion orientée vers la paix et que le gouvernement s'efforce, avec les dirigeants religieux, les partis politiques, les médias et le peuple, de se libérer des conflits indésirables. Le Times dévoile en effet avec ce reportage une partie sombre du bouddhisme que rejettent les pratiquants majoritaires. Bien que leur avis soit divergent avec la politique menée par le moine Viratu, l'opinion birmane a plutôt mal réagi à cette couverture. Le site d'actualité numéro 1 du pays, Media Eleven, considère que la critique du Times est injuste et dommageable pour le bouddhisme et que de tels agissements peuvent créer des conflits et nuire à la fragile transition démocratique du pays.
On termine avec une belle et triste histoire rapportée par le Los Angeles Times.
C'est l'histoire d'un retraité du New Jersey appelé Scott Smith. Sa particularité, il collectionne les autographes de celles et ceux qui ont eu le privilège de figurer une fois dans leur vie sur des unes de magazines. La collection d'une vie, pas forcément facile à réaliser d'ailleurs. Et ça fait justement plus de 50 ans qu'il bute sur l'une d'entre elles. Il n'arrive pas à retrouver le mannequin en première page du magazine Sports Illustrated d'octobre 1960. Pour ce magazine, il a pourtant déjà réussi à récupérer 95% de signatures depuis les années 60.
Comment a-t-il fait, puisque j'imagine qu'il y est parvenu?
C'est finalement une entrevue de Scott Smith dans le Los Angeles Times de mardi dernier qui a précisé les choses. Plusieurs lecteurs californiens ont en effet écrit au journal pour leur faire part de leurs suggestions. Parmi elles, une certaine Julie Chandler, une ex-mannequin qui vit dans un quartier huppé de Los Angeles. Elle écrit dans un courriel destiné au journal « Juste une idée, mais si la photo a été prise à Los Angeles, l'une des modèles était Dolores Greer. Je viens de lire sa nécrologie dans votre journal. Elle lui ressemble. » En effet, elles travaillaient ensemble à l'époque. À partir de là, il a été facile de retrouver sa famille et sa fille. Sa fille qui l'a tout de suite reconnue à la une de la revue Sports Illustrated. Malheureusement, le mannequin est décédé un mois avant cette affaire. La déception pour le collectionneur a été grande d'avoir raté, à un mois près, l'un des plus beaux et incroyables autographes qu'il aurait pu avoir de sa vie.
Une histoire très touchante en effet qui met fin à notre émission. Je vous invite vivement à consulter, si vous ne l'avez pas déjà fait, le nouveau site internet de Radio Centre-Ville. Toutes les références concernant cette émission sont également disponibles sur notre site lemondeenpartage.wordpress.com. Je vous rappelle enfin que cette émission est réécoutable en ligne ou en balado-diffusion. C'était Thibaut Temmerman à la réalisation. Merci encore à notre invité de ce jour, Charmaine Lévy, ainsi qu'à Aline Zalé pour la revue de presse. Vous retrouverez le magazine Centre-Ville juste après la pub. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour notre deuxième volet sur le Brésil. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne semaine sur Radio Centre-Ville. Je vous laisse avec quelques notes de la reprise en portugais de la chanson « Bille de verre » de Maxime Le Forestier et dans la voix de l'artiste brésilienne et montréalaise Bia, cela donne « Estrela do Mar ».
Trazendo de lá, bicho da sede, estrela do mar. Se a noite fechar, saudade apertar, vou lembrar que eu sei de um reino encantado onde o cavalo alado é o padrinho. de um tesouro encontrar. Vou contar até 100. Estrela.